Les enfants de Cronos. Bonjour à tous, chers auditeurs, Colla Bilot, archéologue. Aujourd'hui, une chronique sur l'histoire et l'architecture du château de V. Le château de V, dans la vallée de l'Automne, est célèbre. La vallée de l'Automne, d'ailleurs, est plus souvent connue pour ses magnifiques clochers d'église qui rivalisent pourtant avec d'autres tours, celle des châteaux, dont la plus célèbre est incontestablement celle du château de V. Le site est partiellement classé monument historique depuis 1904 et le jardin minimaliste actuel est labellisé « jardin remarquable ». L'origine du site castral est finalement assez mal connue. Passons sur la légende tenace qui fait de V, Vadum en latin tel qu'il est mentionné dans les sources anciennes, la première capitale du Valois. Il s'agit en réalité d'une assertion de l'abbé Claude Carlier, historien créatif pour le moins du Valois au XVIIIe siècle, et assertion sans cesse reprise depuis sans qu'aucune preuve historique ou archéologique ne l'atteste. Ce que nous savons, c'est que le fief est peut-être donné par Philippe Auguste à Raoul d'Estrées en 1215, et ceci en récompense de son action militaire à Bouvines. À cette époque-là, pourtant, on ne parle, dans les documents anciens encore une fois, que de la maison de V, et pas encore d'un château à proprement parler. Quoi qu'il en soit, en 1358, Hector de V, un lointain descendant de Raoul d'Estrées, possédait, d'après une source, un bon et bel chastel, avec salle et plusieurs chambres, cellier et cave. Cet ensemble est détruit par la jacquerie, ce grand soulèvement populaire dont nous avons déjà parlé, notamment à l'occasion de notre notice sur le château de Thiers-sur-Thève. Une reconstruction a donc lieu après cet événement, après 1360, par Hector, puis son fils Jean. Son fils Jean qui sera d'ailleurs chambellan de Louis d'Orléans, ce qui est important pour bien comprendre le château de V, puisque vraisemblablement il y a eu une influence des architectes de Louis d'Orléans sur les choix architecturaux que Jean réalisera. Cette reconstruction implique plusieurs choses. D'abord, le creusement, le percement de fossés. Apparemment pour la première fois. Si maison forte ou château il y avait eu jusqu'ici, c'était un château plat, un château de plaine, et c'est la première fois que le château de V va accueillir des véritables fossés. Ces fossés entourent une enceinte non flanquée de 63 par 70 mètres. Qu'entends-je par non flanquée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas agréée de tours. C'est le cas par exemple aussi à Berzilsec. C'est un cas finalement relativement rare, mais ça arrive. Pourquoi ? Mais il faut rappeler la manière qu'a de fonctionner la fortification. La fortification, le fait de fortifier, est soumis à l'autorisation du suzerain, du seigneur qui réclame la fortification. C'est un droit, mais c'est un droit accordé. Pour nous ici, le seigneur, le suzerain direct de Hector ou Jean, est le roi de France. Et le roi peut autoriser à construire une fortification en limitant tout de même certains aspects afin de marquer son autorité et de hiérarchiser de façon visible ses vassaux. Ça lui permet aussi d'afficher la confiance qu'il leur concède. C'est peut-être dans ce cas que s'est retrouvé Hector, à qui le roi a peut-être interdit dans un premier temps les fossés, puis autorisé, mais interdit en tout cas vraisemblablement définitivement, de doter son enceinte de tours flanquantes. Précisons tout de même que l'enceinte de V est probablement une des plus curieuses de notre territoire. Peut-être justement due à cette absence de tours, elle cumule des particularismes curieux. Par exemple, elle est augmentée d'archères dans la courtine, ce qui est déjà rare. Mais ces archères en plus n'ont pas d'ébrasement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niche à l'arrière du mur où le logeur, qui essaye de tirer à travers l'archère, peut se loger. Le tireur ne peut ainsi pas s'approcher au plus près de la face externe du mur afin de bénéficier à la fois d'une meilleure visibilité et d'un meilleur angle de tir. Du coup, on peut officiellement dire que ces archères sont presque totalement inutiles et réclameraient d'autant plus d'hommes que des dispositifs habituels pour être utilisés correctement, c'est-à-dire en batterie. Mais qu'importe, ce qui est important de retenir, c'est que du point de vue de l'assaillant qui se situe en dehors de l'enceinte, il voit des archères. Pour lui, il ne sait pas si elles sont opérationnelles ou pas. C'est en quelque sorte un dispositif d'esbrouf. L'autre hypothèse consiste aussi à imaginer que ces archères ne sont pas véritablement en fait des fentes de tir, mais ce qu'on a appelé pendant un temps des lancières, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de battre directement à la lance à travers l'ouverture ceux qui s'approchent trop près des murailles, et aussi d'empêcher ce qu'on a appelé l'échalade, c'est-à-dire le fait de placer des échelles contre les remparts pour essayer de les escalader. C'est un dispositif que l'on voit souvent représenté sur les enluminures du Moyen-Âge. La reconstruction d'Hector puis de Jean implique ensuite un corps de logis de 23 par 9 mètres situé en plein centre de la cour. Il est malheureusement aujourd'hui en grande ruine et profondément modifié par les propriétaires successifs. On sait tout de même que le quadrilatère était surmonté d'une galerie à la base du comble, galerie qui faisait office de chemin de ronde et qui reliait 4 tourelles d'angle montées en encorbellement sur les contreforts. L'objet devait être bien beau si l'on se fie aux rares vestiges de décors sculptés qui nous sont parvenus et à la qualité des manteaux de cheminée. Le logis est associé à une chapelle castrale en plein centre de la cour encore une fois. Cette chapelle est très intéressante car elle est clairement mise en scène. Elle n'est pas orientée, comme on l'attend souvent pour les édifices religieux, vers l'est par exemple. Elle est ajoutée dans un second temps contre le logis, mais placée face à l'entrée, en position centrale. Elle fait ainsi converger irrémédiablement tous les regards. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que ces deux derniers éléments, avec le tronçon repris de l'enceinte à l'est, présentent des mâchicoulis à console large, comme sur les sites de Pierrefonds ou de Crouy-sur-Ourcq. Et si vous m'entendez citer Pierrefonds, ce n'est pas innocent, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible que l'influence de Louis d'Orléans, seigneur commanditaire du château de Pierrefonds, ait été importante et peut-être même qu'un de ses architectes soit intervenu à V, en l'occurrence Jean Lenoir, que nous avons déjà cité également dans notre notice sur le château de la Ferté-Milon. La chapelle est très restaurée à la fin du XIXe siècle en style néo-gothique, offrant notamment une charpente métallique. Mais elle présente depuis toujours une courte nef et un chevet à 3 pans, couronné ensemble de mâchicoulis, desservi par une tour-escalier en vis qui se prolonge en guette. Eh bien, tous ces dispositifs défensifs, dans l'absolu, sont totalement inutiles. On est au centre de la cour, on domine déjà très clairement les alentours, donc l'intérêt d'une guette est très secondaire, d'autant que la guette est bien moite que la tour dont nous parlerons ensuite, et puis les mâchicoulis sont finalement assez peu efficients. Ce qui compte ici, c'est le paraître. Donc la partie la plus célèbre du site, enfin, une tour résidentielle, situé à l'angle de l'enceinte du côté du plateau, c'est-à-dire en position frontale. Vous savez que les architectes et les maîtres d'œuvre ont souvent deux possibilités, soit placer la tour en bout de parcelle comme une espèce de dernier réduit défensif, soit de la poser en premier comme premier obstacle à franchir si l'on souhaite se rendre maître de la place en position frontale, et c'est le choix qui a été fait ici à V. Cette tour mesure plus de 30 mètres de haut. Elle est reliée à la courtine avec un large chemin de ronde dans l'esprit de celui que nous avons déjà évoqué à Cémon et qui partage tous les deux d'ailleurs la possibilité d'avoir été couvert et donc en temps de paix, c'est-à-dire finalement l'essentiel du temps, de pouvoir faire office de galerie de promenade couverte. C'est une disposition d'ailleurs que l'on retrouvera encore d'une certaine manière à Pierrefonds. La tour pentagonale, ce qui est déjà en soi une forme très originale, présente des contreforts circulaires montant de fond, ce qui est très rare chez nous. Elle est originale, mais elle s'inspire très certainement du laboratoire d'expérimentation et d'innovation que furent les différentes constructions du roi Charles V, contemporaines ou à peine précédentes au château de V, et particulièrement de la tour carrée du château de Vincennes. Les modifications intérieures de la tour, particulièrement celles faites à la fin du XIXe siècle, et aussi les plus récentes, empêchent de se faire une idée précise des dispositions intérieures. on peut dire qu'à chaque niveau, une cloison séparait en deux la partie carrée du pentagone de la pointe triangulaire. Ainsi trouvait-on à chaque étage une salle commune et une chambre avec cheminée et latrine en encorbellement donnant sur les fossés. Pour l'anecdote, il n'est pas rare d'ailleurs de trouver les latrines donnant directement sur les fossés de manière visible. N'oublions pas que les latrines forment une des particularités de l'architecture seigneuriale qui témoigne du niveau de vie des habitants. Un grand seigneur a des latrines maçonnées, un petit seigneur se contente du pot de chambre. Le château de la fin du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle avait relativement peu changé, si ce n'est la disparition de la plupart des bâtiments de dépendance. Mais les modifications néo-gothiques que nous avons mentionnées déjà à plusieurs reprises sont toutes à l'initiative de Léon Dru, un industriel géologue très riche qui s'était porté acquéreur du site en 1890. Monsieur Dru avait fait appel à un architecte de talent, Paul Bosvilvald, fils d'Émile Bosvilvald, tous deux grands architectes de la fin du XIXe siècle qui avaient fréquenté Viollet-le-Duc et qui étaient intervenus sur des édifices de premier rang, notamment la Sainte-Chapelle, l'abbaye Saint-Germain-de-Fly, la cité de Carcassonne et tant d'autres. La chapelle du château conserve d'ailleurs le gisant de marbre blanc de Léon Dru, qui s'est fait enterrer sur le site. Les grands travaux de la fin du XIVe siècle, quant à eux, ont été, nous l'avons dit, imputés à Jean Lenoir, architecte majeur de l'entourage de Louis d'Orléans, élève du grand maître Raymond du Temple, architecte du château de Vincennes, et Jean Lenoir a été maître d'œuvre un temps à Pierrefonds, la signature de plusieurs éléments architecturaux décoratifs, particulièrement les consoles de mâchicoulis de la tour maîtresse, portent en effet à le croire, même si certains d'entre eux ont été modifiés. Aujourd'hui, le site accueille également des expositions d'art contemporain et, nous l'avons dit, un jardin minimaliste parfaitement entretenu. Autant de raisons de chausser des crampons adaptés et de profiter d'un site remarquable, très différent selon qu'on le visite l'été ou l'hiver, mais toujours particulièrement évocateur d'un Moyen-Âge réel, mais aussi réapproprié par les grands hommes du XIXe siècle, particulièrement les architectes qui parfois se font artistes.